Bonsoir à tous. Bonsoir Albena Dimitrova. Bonsoir. Vous êtes là pour nous parler de votre premier roman, Nous dînerons en français, qui vient de paraître aux éditions Galade pour la rentrée littéraire. Si on peut résumer en quelques mots, c'est une histoire d'amour, un coup de foudre entre Alba et Guéo. Elle est jeune, elle a 17 ans. Lui, il en a 55, c'est un membre du Politburo. Ils se rencontrent à l'hôpital du gouvernement et nous sommes en Bulgarie à la fin des années 80. Ce roman, il s'ouvre sur une promesse. Nous dînerons en français, c'est la promesse que se fait le couple, se retrouver en France pour vivre ensemble, heureux, sachant que nous sommes quand même à une période charnière de l'histoire, qui est la veille de la chute du bloc communiste. Alors vous êtes l'auteur de plusieurs livres, un recueil de poésie, un essai sur la Bulgarie, les femmes en Bulgarie, un livre de photographie aussi sur la danse. Un premier roman, c'est évidemment quelque chose de fort et d'important dans le parcours d'un écrivain. J'aurais aimé savoir en premier lieu si c'est un projet que vous portiez depuis longtemps.
Bonsoir, oui, merci pour cette invitation et le portrait que vous venez de faire du livre. Oui, le support de roman offre d'autres responsabilités, à la fois d'une création littéraire beaucoup plus exigeante que le format de l'essai, puisqu'on doit faire porter la voix au personnage. Ce n'est plus l'auteur qui s'exprime. Donc ça a été quelque chose de très important pour moi, de trouver la langue de ces personnages. Et deuxième lieu, est-ce que le sujet m'accompagne depuis longtemps ? Oui. Il m'accompagne par plusieurs degrés de nécessité, à la fois une nécessité de faire porter une voix à des personnages qui ont authentiquement vécu cette petite période juste avant la chute du mur. La chute du mur reste quelque chose qui est célébré chaque année, mais est-ce que quelqu'un peut dire vraiment on comprenait que le mur allait tomber. Et est-ce que surtout aujourd'hui, et c'était ça un peu l'objet du roman, on peut mesurer les changements que ça a pu apporter dans notre vie aujourd'hui. Cette espèce de mort, de conflit idéologique avec la mort du mur. Et le troisième niveau pour le roman, qui était nécessaire pour moi, en tout cas comme recherche, c'était d'interroger ce sentiment qui me surprend toujours. L'être humain a cette capacité d'élan amoureux, quel qu'il soit le contexte. Ben, tsunami, il y a de l'amour. Guerre, il y a de l'amour. Crise économique, il y a de l'amour. Tout ce que j'espère, c'est que tout ce qui nous attend après, c'est pour ça le titre est au futur, ben, il aura encore l'amour. Voilà.
Et l'écrire en français, c'était important pour vous ?
C'était une longue question, d'abord de m'autoriser, parce que les essais, les autres livres, enfin tout ce que j'ai pu écrire et présenter en français ne me posait pas de problème, de conscience. Là, la question se posait sur quelle est la langue des personnages. Et la langue des personnages, ce n'était pas le bulgare, bien qu'ils aient vécu en Bulgarie. Et ce n'était pas le français parfait des essais, enfin parfait, anonyme, entre guillemets. Donc il fallait vraiment mesurer et aller chercher cette langue. Et donc j'ai trouvé que c'est une langue avec accent. Comme je parle avec accent, il fallait trouver un moyen, comment l'écrire dans la vérité de cet accent, sans l'exagérer, sans tordre le français. Parce que c'est une histoire d'amour d'abord que j'ai avec le français.
Oui, il y a une approche presque charnelle de la langue. Et c'est vrai que la narratrice, quand elle découvre le français, sa découverte, c'est charnel. Elle dit la première fois que j'ai senti le français. Il y a cette image dans le métro où elle se retrouve dans le métro, elle entend les bruits autour. Il y a quelque chose de presque physique. Est-ce que pour vous, c'était pareil, cette découverte du français ?
Tout à fait. J'ai prêté évidemment des expériences à ces personnages. Une des expériences très fortes d'une langue qui vous accueille, c'est que le sens, la raison, le cerveau, ce degré de perception de la langue passe vraiment à l'arrière et laisse beaucoup plus de place à la musique, à la musicalité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'essaie d'aller dans cette écoute du français où je vais le libérer du point du sens pour garder le rythme et la musique. Et c'est de plus en plus difficile de faire ça.
Mais c'est vrai que c'est un livre qu'on a presque envie de lire à haute voix. La musique, effectivement, elle a une place très importante dans le rythme, et puis même, elle est à l'ouverture du livre. Il y a une citation de Franz Liszt au départ, il y a la 5e symphonie de Beethoven qui arrive vraiment au départ du livre. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais enfin, voilà, elle fait l'ouverture du roman. Est-ce que cette musique-là, comment le choix s'est fait, c'est finalement en lien avec l'écriture du livre que toutes ces musiques sont apparues, ce mélange à la fois de musique tzigane, de musique classique
Oui, la musique a une importance pour la création littéraire. La musique me semble indispensable. Quand on écrit un roman, justement, on peut lui choisir plein d'ingrédients. Il y a beaucoup de livres qui me passionnent, dans lesquels les repas font partie d'une poésie. En général, d'ailleurs, on a faim quand on lit ces romans-là. Et donc, il y avait soit la nourriture avec une sorte de aller, mais vraiment jusqu'au corps, la déglutition, en fait, tout y rentre, soit la physicalité, c'est-à-dire quelque chose qui est très éprouvant, d'une longue marche physique qui engage les corps des personnages et qui devient presque un petit rappel de leur, non pas identité, mais essence de présence dans le livre. Et moi, j'ai choisi pour ce livre-là, ces personnages-là, rappeler comme ils vivent dans leur histoire à plusieurs endroits géographiques, comme il y a la lutte de l'un des amants, le grand apparatchik Géo, lui lutte avec le point de sa mémoire. À quoi ai-je servi? Qu'est-ce que c'était? Et où va-t-on? Donc lui, il est déjà dans une lutte physique avec le cerveau, avec la conscience. Et cette jeune fille qui est son amoureuse, elle est dans une lutte de reprendre la marche. La paralysie était mon autre ingrédient d'amener presque un endroit très visuel la difficulté qu'aujourd'hui même ont les jeunes gens de se dire « mais quel chemin prendre ?»
Oui, parce qu'on ne l'a pas, je ne l'ai pas précisé au départ, mais c'est vrai qu'ils se rencontrent à l'hôpital. Elle est atteinte de paralysie d'une jambe, hein, de la hanche. On ne sait pas très bien, c'est quelque chose d'un peu inexpliqué. Et lui, il est à l'hôpital pour subir des électrochocs. Donc voilà,
Les électrochocs, c'était le Prozac communiste, à vrai dire. Ça calmait tout le monde. Et j'ai situé ça aussi dans un lieu qui parle aussi en France. Je ne sais pas si quelqu'un a pu voir récemment, enfin, il y a 2 jours, il y a un incroyable documentaire sur Val-de-Grâce qui est passé à France Télévisions. Je vous le recommande parce que c'est vraiment le lieu de la République. D'ailleurs, le titre du documentaire, c'est Val-de-Grâce, l'hôpital de la République. Et pour moi, la scène de ma Val-de-Grâce, c'est l'hôpital du gouvernement, c'est-à-dire un endroit qui était un peu à part, mais qui touche à la santé et qui parle de pouvoir, exige l'absence de santé. En gros, les hommes politiques, ils n'ont pas droit d'être malades. Donc, ils ne sont pas tout à fait humains. Et là, ça les rend humains incroyablement, puisqu'ils sont dans leur fragilité.
Oui. Je voudrais qu'on parle maintenant de la structure de ce livre. À la lecture, on sent que tout s'organise comme un tableau, comme différents tableaux qui apparaissent, comme différents instantanés, le tout formant une espèce de mosaïque. Pourquoi avoir voulu choisir cette espèce de structure un peu en mosaïque, pas forcément linéaire? Pourquoi avoir privilégié ça plutôt que quelque chose de chronologique? C'est venu comme les images qui vous venaient en tête?
Oh mon Dieu, non. Non, ça c'était pour dire vraiment l'intérieur de l'écriture. J'ai vraiment raconté cette histoire d'un seul souffle, de façon très linéaire. D'accord. Mais le côté linéaire m'était nécessaire pour me trouver les repères de quels sont les matériaux que je veux travailler par la suite. Et ensuite, j'ai eu quelques bonnes soirées de folie où aujourd'hui, on écrit, on transpose tout soit par le carnet, soit dans l'ordinateur. Et là, on n'a aucune vision d'ensemble. J'ai plus l'habitude avec le spectacle vivant. On a une vision d'ensemble immédiatement de la dramaturgie, de qu'est-ce qui se passe sur scène. Et là, avec le livre, cette création, je me sentais privée de ça. Donc, j'ai fait un coup de folie, j'ai imprimé tout. Et ensuite, il était tapissé un peu partout dans l'appartement. Et je vivais avec cette histoire pour lui ensuite recouper les moments qui la rendait vivant. Ce n'était pas pour me compliquer la vie, mais pour vraiment aller dans l'innocence du récit du vivant.
Mais écoutez, c'est complètement réussi. Moi, j'ai vraiment l'impression à la lecture, c'était une série d'images et que vous mettiez des images sur des mots sur des images.
Ah oui.
Vous pouvez le prendre pour un compliment, hein, mais.
Merci.
Et pour vous évoquer tout à l'heure la mémoire de Guéo, il y a un petit jeu auquel se prêtent les deux personnages au début du roman. Retenir un maximum de mots qui sont écrits sur un bout de papier, enfin, noter des mots qui viennent comme ça à l'esprit sur un bout de papier et après les retenir. Est-ce que c'est à l'image de vous ce travail de mémoire de cette période-là, de la Bulgarie?
Ah, c'est très intéressant. J'avais jamais pensé sous cet angle-là. Pour expliquer sans raconter, les deux amants se rencontrent complètement cabossés, donc elle est paralysée, lui il cherche à oublier, mais sans trop savoir quoi. C'est là où est intéressant son parcours. Mais heureusement, il quitte l'hôpital. Ce n'est pas une montagne magique, ce n'est pas un huis clos, mais ils vivent tout de même dans un huis clos, puisque à tout niveau, cette rencontre et cette histoire amoureuse, elle est en décalage avec ce que ça devrait être. Et c'est vrai qu'ils ont quelques épisodes comme ça de vie, dans des appartements de fortune qu'ils trouvaient, ou des voyages un peu sur la mer Noire. Et de quoi s'occupent deux amants qui doivent se cacher, qui ont plein de douleurs à faire taire. Guéo, ayant fait l'école de KGB, apprend sa maîtresse, évidemment, quoi ? Exercer la mémoire. Le type, il souffre de trop de mémoire, mais qu'est-ce qu'il sait comme exercice ? C'est exercer la mémoire. Et donc, ils ont un jeu où ils prononcent deux ou trois fois une centaine de mots, et celui qui gagne, c'est celui qui a marqué après sur le papier, a mémorisé un maximum de mots. Et je trouvais que c'était un jeu qui était plus intéressant, non pas avec la mémoire de la Bulgarie, mais avec la langue de l'amour. Je ne sais pas si chacun a eu plusieurs fois l'expérience de qu'est-ce que c'est d'aimer quelqu'un. Et vivre cette relation d'amour crée un langage qui est propre à cet amour-là. Et ensuite, si on n'est plus avec la personne de cet amour-là, soit on a l'impression de trahir cet amour si on ressort les mêmes petits mots, les mêmes façons de se parler, soit on en crée d'autres. Et ce que je trouvais important avec ce jeu de mots, c'est qu'effectivement, cette fille, le roman se déroule jusqu'à aujourd'hui, avec ses flashs, c'était nécessaire. Et donc, cette fille, elle ne retrouve plus ces mots-là. Pourtant, ce ne sont pas des mots extraordinaires. Mais ils n'ont plus du tout la même sonorité, ils n'ont plus du tout les mêmes résonances à l'intérieur de l'être, dès l'instant où ils ne sont pas vécus à l'intérieur de cet amour-là. Donc c'est plus une mémoire d'amour qu'une mémoire historique, ce jeu-là en particulier.
D'accord. Je voudrais qu'on revienne un petit peu justement sur ces deux personnages. Un peu cabossés, vous le disiez. Est-ce qu'ils sont finalement pas un peu emblématiques de la Bulgarie de l'époque ?
Je me suis dit ça quand j'ai vu toutes les feuilles, effectivement, qu'il y avait un portrait aussi de ça. Mais pour moi, c'était beaucoup plus un portrait des clichés que portent les uns et les autres, nous portant les uns sur les autres. Et comme j'ai fait l'expérience de l'Est et l'expérience de l'Ouest, enfin, est-ce qu'on peut les appeler encore comme ça, Occident et, et autres. Par exemple, notre mur du côté de l'Est me semble qu'il était un tout petit peu moins étanche que le mur du côté de l'Ouest. Nous, on regardait Star Wars, justement, alors qu'on était sous le mur de Berlin, régime communiste. On voyait Kubrick, on voyait Woody Allen, etc. Et moi, je n'ai pas du tout l'impression qu'ici, on a vu notre James Bond, par exemple. Et je me souviens très bien de cette sensation de dire « Mais tiens, c'est les mêmes ingrédients. » Et au début, il me fallait juste réadapter le cerveau pour me dire « Là, les méchants sont les Russes et les gentils sont les Américains. » Et ça marchait très bien. Et du coup, j'ai revisionné les 17 instants du printemps, qui est notre grand James Bond communiste. Je l'ai revisionné en me forçant de voir le principal personnage comme étant quelqu'un de l'Ouest et les autres, les ultra-méchants, comme étant des régimes communistes. Et je me suis dit, mon Dieu, mais ils nous font marcher toujours avec la même, les mêmes ingrédients, plus ou moins affinés, plus ou moins sympathiques. Et oui, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai cherché à prendre une certaine liberté par rapport à la propagande, quelle qu'elle soit de l'Ouest ou de l'Est.
Il y a une relation de soutien, je trouve, d'être très, 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 très forte entre ces deux personnages. L'image de Ping Pong qui se joue à un moment, elle va récupérer à un moment des sensations dans la jambe, et Guéo va l'aider, et il va presque la forcer à se...
C'est toute l'image de la vie qui se réirrigue, justement, de prendre la liberté et lève-toi et marche, mais sans l'impératif autre, non pas idéologique, non pas religieux, non pas moral, un impératif qui va en-delà de tout ça, qui est vraiment le vivant. Remettre au centre de l'effort et de l'élan le vivant.
Et ce vivant, il est là, malgré cette espèce de fatalité, cette dimension tragique qui est dans le livre. À plusieurs reprises, vous évoquez les parcs, les fileuses. Ouais. Il y a cette dimension-là aussi, quand même, qui existe.
Oui, mais ça, c'était la dimension plutôt de la oralité qui existe encore dans ces... Même en Russie, en Bulgarie encore plus. Il y a une oralité qui, bien que les relations marchandes défont les liens... La oralité fait comme recouvrir de sable, justement, toutes ces ruptures de liens. Et oui, les gens se parlent. Et pour moi, c'était un peu choral comme ça. Effectivement, les parcs qui sont des fileuses un peu, qui annoncent pas toujours le bon temps, mais elles sont là parce qu'elles figurent aussi tout le lien qui est précieux et qui devient invisible à cause de la politique, à cause de l'économique, à cause de plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le vivant, en fait.
Et pour revenir à cette jeune Alba, pour essayer d'en faire un portrait un peu plus précis, finalement, on sait très peu de choses d'elle. Autant, Guéo, vous nous racontez un petit peu ses ex-femmes, ses enfants, etc. Alba, on a l'impression qu'elle arrive un peu de nulle part et il y a une espèce de force qui se dégage en elle. Pourquoi cette envie de faire de taire un petit peu d'où vient-elle?
D'abord, j'ai pas du tout éprouvé ça pour mettre en relief une relation. Et je me suis dit qu'on pouvait rentrer dans la relation justement comme on s'invite autour d'une table et paf, on ne va pas raconter si on a pris un petit déjeuner le matin. Et hop, on se joint. Et ça, c'était la première chose. Mais la deuxième chose, c'est parce que le personnage qui racontait tout le parcours depuis le gamin ramassé de la rue jusqu'au grand apparatchik conseiller des présidents des pays de l'Est, qui est Guéo, et ensuite la déchéance... qui est dans une relation, en plus, je trouvais ça très drôle, avec un aristocrate, parce que les deux étaient tout autant décalés du temps. Oui, c'était pas dans leur temps. Et la petite Alba, comme elle était, elle est d'abord là par erreur. Deuxièmement, elle représente le peuple. Elle n'a vraiment, pour moi, s'il y a une métaphore du peuple, c'est et d'où vient le peuple ? Oh, on se préoccupe jamais, on ne sait pas d'où vient le peuple. Et puis ensuite, elle a tout devant elle. Si je l'enfermais déjà dans un pédigré, on va trop s'occuper de ce qui ont été les parents, les grands-parents, enfin les origines. Parce qu'une jeune fille de 15-16 ans, elle a tout devant elle. Elle peut tout devenir. Et j'aimais bien le garder dans cette virginité de son histoire.
Une femme un peu représentative aussi des Bulgares de l'époque. Je crois que vous dites dans le goût bulgare que les femmes, elles ont une place vraiment particulière, complètement à l'égal des hommes. Le sexe est supprimé des catégories socio-professionnelles en 48, c'est ça,
hein, ouais.
Vous le dites dans votre livre.
Ah, oui, impressionnant. C'est vrai que sur le communisme, on a aussi beaucoup de clichés qui nous interdisent aujourd'hui de pouvoir lui trouver quelque chose peut-être de pas si monstrueux par moment, sans être traité de nostalgique. Et c'est vrai que les Balkans, avec leur mouvement patriarcal, mais sans l'arrivée des communistes, on avait encore le fichu sur la tête. Ça a été une telle accélération de chercher la main-d'œuvre que la main-d'œuvre, elle n'avait pas de sexe. Hein. Il fallait aller bosser, électrifier les campagnes en Sibérie. Allez-y, toutes les mains étaient nécessaires. Donc il y a eu cette chance pour les femmes de un peu comme des femmes en temps de guerre. On ne les traite pas de « Ah, t'es une femme, tu travailles ». Donc ça, c'était la première chose qui a poussé immédiatement l'ouverture des universités aux femmes. Ce qui est une chose très récente. Des femmes chirurgiens, c'est vraiment les premières femmes chirurgiennes deviennent visibles dans le monde social. C'est nos parents, hein. C'est pas beaucoup plus avant. C'est vrai que le communisme a apporté ça dans ces pays et que je peux vous dire que la chute du mur, alors elle a ramené les choses bien en place. C'est la femme à la maison ou derrière un homme puissant et le patriarcat. Enfin, pas un patriarcat comme ça, comment dire, une espèce de centralisme économique est revenu très vite. Les salaires maintenant sont différents. Entre femmes et hommes, c'est bon, l'égalité, on l'a rétablie.
Et pour parler justement un peu plus politique, parce que je le précise aux personnes qui sont en face de nous, vous êtes une économiste spécialisée dans les risques systémiques appliqués à la privatisation et à la corruption dans les pays de l'Est, c'est ça ?
Après ça. Oui, j'étais très, très, très curieuse de voir comment ça fonctionne. Même, je crois que je suis venue un peu pour comprendre comment fonctionne le capitalisme, pour prendre des bonnes recettes et ensuite en faire un super communisme. Mais bon, ça n'a pas marché. Et étudiante, voilà, j'ai fait cette recherche sur la corruption, justement. Et là, avec mon élan de société, enfin, d'une jeune femme qui débarque d'une société où il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes, et voir en France à quel point ce sujet préoccupait les esprits les années 90. Maintenant, c'est peut-être plus apaisé, mais je ne suis pas sûre qu'au niveau des revendications d'égalité... Enfin, on ne trouve toujours pas la place économique de la femme et mère. Il y a encore quelque chose qui ne colle pas. Et donc, voyons que la question du sexe ici avait une importance. J'ai introduit dans mes modèles sur la corruption le paramètre femme ou homme. Et premier modèle sur les douanes bulgares. Bon, il n'y a pas de statistique de la corruption. Par définition, la mafia ne met pas son comptable. Donc, je me suis dit, c'est par les douanes que je vais peut-être pouvoir recouper des trafics un peu bizarres. Et là, premier résultat de fameux modèle qui ne marche pas, je vous rassure. Premier résultat, pas une seule femme corrompue. Oh. Quand on a 19 ans et qu'on voit ça, on est très, très, très fiers, très contents. Hélas, après, ce qui s'est avéré, c'est que même les communismes avec, soi-disant, cette égalité parfaite, eh bien, ils avaient quand même masqué l'inégalité en mettant jamais sur des postes susceptibles de donner un intérêt pour être corrompus des femmes. C'est juste pour ça qu'il n'y avait pas de femmes corrompues. Donc, affaire à suivre. Je ne sais pas si on est moins ou plus corruptible.
D'accord. Et pour évoquer justement un peu plus la politique et justement cette période si particulière de l'histoire, il y a une discussion dans le roman entre Guéo et un diplomate, où finalement la différence entre l'Est et l'Ouest, elle est évoquée, elle tiendrait dans les notions de question de désir et de volonté. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, ces notions-là de désir et de volonté?
Moi, je pense que fondamentalement, les communistes ont fait un postulat de qu'est-ce qu'on doit désirer. Et lorsqu'on n'a plus droit de chercher ce qu'on doit désirer, parce que ça devient un devoir, ça veut dire qu'au niveau de l'être humain, on active tout ce que nécessite la volonté. Ah, il suffit de le vouloir pour le pouvoir. Et j'étais très impressionnée par la notion de liberté ici, où il y a au contraire une grande liberté sur les désirs, et ensuite les castes ou alors les difficultés interviennent sur les moyens de pouvoir répondre à ces désirs. Mais c'était les réponses qui posent problème ici et non pas la liberté de désir. Et comme j'ai quelques sensibilités peut-être un peu maladives et pathologiques sur des ressemblance de totalitarisme, j'étais assez choquée par le totalitarisme qu'il y a sur la naissance du désir ici. Quand on voit à l'école à quel point, ils n'ont pas d'uniforme d'ailleurs, à l'école les enfants sont libres, mais quelle liberté! Mais si t'as pas les Nike de machin, mais comment tu vas faire, hein? Et ce jeu sur le désir m'a poussé vraiment à réfléchir sur qu'est-ce qui est plus dangereux, que quelqu'un te force à vouloir quelque chose que tu ne veux pas trop, ou que quelqu'un te piège dans tes propres désirs. Qu'est-ce qui est plus difficile à détecter comme un mimétisme ou totalitarisme d'une certaine manière? Et je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'un dictateur totalitaire, comme était Jivkov ou Brejnev ou Ceausescu, c'est plus facile de le renverser. Il y a déjà, il est mortel. Au pire, si on n'arrive pas à le renverser avant, il va finir par. Hein. Donc ça, c'était la première chose. Je me dis, ça ne peut pas durer aussi longtemps. Donc, parce que le relais ne se passe pas. Mais alors, quand on n'a pas un dictateur qui rassemble les mécontentements, comment le renverser? Là, ça devient des totalitarismes, ce que j'appelle les totalitarismes New Age de masse. Et selon les circonstances, on est à la fois le totalitaire soi-même, et puis à côté, on est le contestataire. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait de nous une espèce d'impuissance d'action. Poum! À chaque fois, on est immobilisé. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je m'explique l'émergence de ces mouvements très forts qui sont actuellement Podemos en Espagne, Tsipras qui se passe en Grèce, c'est assez étonnant, et cette absence de puissance d'action. On ne peut que s'indigner, mais après l'indignation, il n'y a plus de... Alors qu'un dictateur, lui, mobilise chez les contestataires une force, on sait où elle est. Comme je disais l'autre jour pour une interview, c'est vrai que c'est difficile. Aucune armée ne peut combattre ses propres soldats. Et j'ai l'impression qu'on participe vraiment dans une espèce de dispersion. D'ailleurs, on le voit, la guerre aujourd'hui, elle est dispersée. On n'a plus une ligne de front. Et on prend le métro, c'est la guerre. Des types viennent en vacances, ils finissent héros de guerre. Là, les Américains qui avaient sauvé le TGV... Il y a une vraie question de transformation de cette verticalité du totalitarisme qui était les totalitarismes communistes et cette espèce aujourd'hui, même les puissants, même ceux qui sont au pouvoir, obéissent à quelque chose qui leur échappe et ne peuvent pas avoir la force d'action. Tout de suite, il y a quelque chose qui mobilise. Ça, c'est une question de société qui me passionne, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir sur les idées qui... Parce que ce qui m'a surpris en arrivant ici, c'était à quel point on parle des régimes communistes jusqu'à Staline, Khrushchev, et ensuite, allez-y sur Lina, il n'y a aucun document. Comme si Andropov n'a pas existé. Alors que c'est le père intellectuel de Poutine. Et comment comprendre qu'est-ce qui fait Poutine si on ne sait pas de quoi il fonctionne. Et bref, cette absence de réflexion n'est pas vraie. Les gens qui habitaient dans les pays de l'Est jusqu'à la chute du mur, il y avait des débats. Cette société vivait. Elle n'était pas congelée. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'aller... Ensuite, dans cette histoire de rapport,
oui, parce qu'on...
qui est un personnage, en fait, en soi.
Exactement, un personnage qui arrive à la fin du roman. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Guéo travaille, en fait, sur un rapport qui sauverait le communisme, le pays, qui échapperait qui sauverait le communisme. Et donc ce rapport en question, il en est question pendant tout au long du roman, et puis il apparaît à la fin de l'ouvrage, dans un style complètement différent hein, par rapport à tout le reste du récit. Style politique, mais qui n'est pas le parler, le phrasé politique de la France d'aujourd'hui. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu comment vous avez travaillé, pourquoi avez-vous déjà voulu l'insérer, ce rapport.
Ce rapport est d'abord une troisième voie qui a existé, qu'on a transmis un petit peu en Occident, l'idée de la troisième voie, je pense qu'elle est morte en 91. Et... La troisième voie, c'était quoi ? C'était, on l'a peut-être su un petit peu avec les Yougoslavies avant l'éclatement. Ils avaient, si vous vous souvenez, réformé leur économie pour que ça ne soit pas un truc totalitaire de planification quinquennale. Et il y avait deux courants. Il y avait un courant de réformateurs qui disaient « Mais non, c'est pas l'économie de marché qui nous amène la liberté. C'est les biens communs. Gérer d'une façon plus cohérente avec les marchés, donc la propriété collective, mais c'est démonopoliser la politique, sortir de monothéisme communiste et ouvrir à une participation que d'ailleurs Ségolène Royal avait sorti sa démocratie participative. J'avais adoré ça parce que c'était les couloirs de discussion dans les pays de l'Est, peu avant la chute du mur et un tout petit peu après. Et cette voie-là me semblait intéressante de la ressortir sur le débat de société aujourd'hui, puisque on voit bien qu'avec la loi des élections en France, par exemple le bulletin blanc, bah, c'est intéressant de voir que finalement, on a le choix entre le choix et le choix. Et pourtant, ça exprime quelque chose de dire « je vais quand même voter et vous ne me plaisez pas ». Et après, on vient dire « le peuple a les politiques qu'il mérite ». Eh bien non, je suis désolée. Bah. Si on vient avec le bulletin blanc, ça veut dire que les politiques ne nous conviennent pas, mais personne ne peut nous entendre. Et ça, dans les pays de l'Est, mais vraiment tout à la fin, et on le voit même dans des rapports originaux que j'ai consultés, il était question de faire le bulletin citoyen avec une idée que je trouve géniale, c'est de rendre hommage aux Grecs, de la démocratie grecque vraiment ancienne, et réintroduire l'élément aléatoire. Ça veut dire que si les hommes politiques qui sont sur le marché du moment des élections ne nous conviennent pas, au lieu d'aller voter blanc ou n'y pas voter, ou rendre obligatoire le vote, là, c'est encore pire, ils ont la possibilité de dire, moi, je donne ma voix aux citoyennetés. Ce qui fait que le Parlement, ensuite, se répartit les sièges entre les partis politiques qui rentrent de façon représentative dans le Parlement, et puis les 11% de bulletins citoyens donnent lieu à des tirage au sort des citoyens ayant eu le bac, quelques conditions, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va donner le Parlement en France? Et est-ce qu'on ne serait pas les premiers à nous dire, mais ça ne va pas? Et la politique, elle change. Parce qu'à l'école, les enfants doivent apprendre que demain, peut-être, le tirage au sort, il fait de lui potentiellement. Il n'y a plus un député, quelqu'un qui s'occupe du bien commun et non pas de corporatisme des choses.
Et ce rapport, vous l'avez, on en parlait tout à l'heure entre nous, me dit que vous ne l'aviez pas tout d'abord écrit directement en français.
Oh si, j'ai démarré en français ce rapport. Et alors là, c'était mais comme si vous lisiez Moscovici ou je ne sais pas qui. Mais enfin, ça prenait une telle allure. En tout cas, j'ai beaucoup appris sur la langue de bois française. Parce que ce n'était pas du tout la même langue de bois des pays de l'Est. Les pays de l'Est, il fallait en fait que ça paraisse super démuni d'émotions. Surtout pas d'émotions. Hein, on dit la vérité, on la scène, on ne l'explique pas. Et quelques arguments, mais qui sont des arguments à la... Comment avoir toujours raison. C'est-à-dire, vous ne pouvez absolument pas les contester.
Imparable.
Et donc là, j'ai calé. Et je reviens au début de notre entretien, c'était ça. C'est qu'il faut rester dans la vérité de la langue. Ce n'était pas une obsession écrite en français, c'était juste la vérité de cette langue-là. Et ben, je suis retournée à mes cahiers, je me suis remise en bulgare, j'ai lu 1600 pages de rapports entre 85 et 88, de toutes les réflexions en Pologne, en Russie et en Bulgarie, pour avoir assez de recul. Et une fois que j'ai engurgité tout ça, j'avais tout déchiré de précédent travail sur le rapport. Et j'ai écrit ce rapport vraiment en bulgare pour me retraduire ensuite. Ça a été un voyage initiatique incroyable pour moi.
Ouais. Mais ça fonctionne complètement, parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout le même ton, le même vocabulaire que ce qu'on peut lire dans les différents discours ou... traité politique français.
Et puis on comprend entre les lignes ce qui se disait, ce qui était important. Tout comme aujourd'hui, les députés, ils se comprennent très bien quand ils font leur tralala qui t'endort, mais à l'intérieur, ils passent des messages. Sauf que c'est d'autres codes.
Exactement.
Très intéressant d'ailleurs. Peut-être que je devrais faire un rapport français.
Conseillère en communication, ah, pourquoi
absolument.
Pas
Ah non, surtout pas. C'est là où sont les mecs qui font les codifications.
Ah bah oui.
Ah oui, oui. Et c'est là où ça fait ce que je disais, cette espèce de délier les gens les uns des autres. Dès l'instant où on s'empare de leurs paroles, qu'on l'adresse selon des règles de communication, etc. Plus, cette coupure existait déjà dans les pays communistes, donc attention, peut-être ça nous attend ici, j'en sais rien, mais c'est intéressant de voir que cette coupure de vocabulaire et de façon de s'adresser aux gens peut mener très loin dans l'incompréhension. Peut-être les communicants sont bien payés après, mais est-ce que ça communique vraiment? Et puis Raffarin avait sorti, si vous vous souvenez, je vous disais, la France d'en bas, vous vous souvenez de ça? Et mais oui, mais il l'a copié dans les rapports russes. Et on le retrouve dans ces rapports des années 80. Ce qui me fait comprendre que Raffarin était au courant des réflexions de l'autre côté du mur. Ou alors ils aboutissent tous à la même conclusion. Je ne sais pas.
Oui, vraiment, troisième personnage dans le roman, puisque la typographie n'est pas la même dans le livre. Hein, je vous encourage certains à ouvrir le livre.
Permettez-moi rendre hommage à la maison d'édition Galade, parce qu'ils ont fait un travail d'objet. Ils sont allés jusqu'à se prendre la tête sur la typo communiste des années 80.
C'est plus vrai que nature. Hein.
C'est un faux, hein, honnêtement.
pour parler maintenant plutôt de votre langue, de la langue du roman, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous fassiez une petite lecture pour que le public puisse entendre le rythme et le phrasé, ce français avec accent qui est là et qu'on sent vraiment à la lecture.
Je vous laisse. Merci, Amélie.
Donc ce paragraphe-là, ouais. Si vous voulez bien.
D'accord. Merci. À l'époque de notre sanatorium, j'ignorais des tas de choses. Des choses qui surprenaient mes sens. Dérisoire et Vital s'accoudaient à une même table. J'ignorais bien des choses. Je les sentais pourtant. Je sentais les reliefs se dessiner grâce aux grains de sable. Mais sans qu'aucun de ces grains en particulier ne décide véritablement de son emplacement. Ne rien voir, tout au plus former une roche et permettre au vent de sculpter des nouvelles éminences, pour quelque temps. Attendre les enjambées de l'histoire à l'intérieur de nos petites histoires. Si on avait de la chance, on pouvait faire partie des grains de sable au pied ou au sommet de la roche. Le seul privilège incontestable, le seul souverain choix que nous restait, était celui de ne pas nous éparpiller, de nous offrir au moins une possibilité de célébrer le fait d'avoir été là. Était-ce assez ? Je pensais que c'était nécessaire. Je me persuadais que cela suffisait. Mais mon sommeil se perdait et le matin, je devais appuyer de plus en plus fort pour faire revenir mon rire où se distillait une tristesse inconnue.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez eu déjà des comptes rendus de lecture de personnes de Bulgare qui ont pu lire ce livre, des avis
Ah, mais il est très prétentieux, je peux le dire, Marine, d'Irina Bokova. Mais bon, enfin, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Si ? Ah ben, voilà, c'est l'Angela Merkel bulgare. Comme quoi, on oublie que les femmes ont pouvoir aujourd'hui, à l'Ouest comme à l'Est, sont formées dans les universités et les écoles de l'Est. Et donc, Irina Bokova, elle est la directrice générale de l'UNESCO. Et qui maintenant, je pense que c'est son deuxième mandat, et puis qui nous a fait l'immense surprise et amitié de lire le roman et visiblement d'en être emportée. Mais elle ne m'a pas parlé en détail sur les couloirs du pouvoir.
Oui, d'accord. Et est-ce que vous vous sentez proche d'écrivains français ou bulgares ? Moi, je pensais à la poétesse bulgare qui s'appelle... Bon, excusez-moi
Aksinia
pour l'accent. Aksinia
Mikhailova.
Voilà, ah, oui. Vous l'avez dit, qui a eu qui avait écrit Ciel à perdre, hein, qui est
en
sorti chez Gallimard, voilà, traduit en français.
Non, écrit
oui,
en
écrit
français.
Écrit en français, pardon. Je ne sais pas si c'est sorti après en Bulgarie, mais ça a eu le prix Apollinaire. Est-ce que... Voilà, vous avez des auteurs vers lesquels vous êtes plus proche.
Ah oui, de toute façon, j'adore lire. Et puis, j'aime beaucoup lire les auteurs qui ne sont plus de ce monde. Mais honnêtement, quel plaisir de lire les gens d'aujourd'hui et de pouvoir avoir la chance d'échanger. Oui, c'est Aksinia Mikhailova, c'est un magnifique exemple. Mais beaucoup d'autres, d'Italiens, des Français, des Anglais, des jeunes Anglais, des Irlandais... Ah non, c'est foisonnant, c'est superbe. Je ne peux pas citer des noms parce que je suis très mauvaise dans les prononciations des noms. Mais là, dernièrement, c'est ici, c'est Antonio Moresco.
Oui.
Oh, quelle beauté, la petite lumière déjà. C'était
une fable
d'une beauté
d'amour.
Et fable d'amour.
Les deux sont édités chez Verdier.
Et quelle merveille, vraiment. Non, c'est heureusement. Il y a une belle production littéraire, hein, très inspirante.
J'évoquais la France et la Bulgarie parce que dans le roman, le fils de Géo dit un moment que Alba en arabe signifierait deux cœurs. Est-ce que vous vous sentez, est-ce que c'est les deux cœurs, le cœur que vous avez en Bulgarie, celui qui est en France ou...
Ah, je n'avais jamais pensé à ça. Je me souviens de ces débats. Julia Kristeva en parle très bien sur qu'est-ce que c'est que l'exilé, enfin l'exilé linguistique. Georges Stenner aussi on dit beaucoup. Et moi, je me suis un peu fâchée avec cette idée parce que je me sens pas du tout exilée, mais pas du tout exilée. Et justement, je sens plutôt une transfusion de plusieurs cultures, de plusieurs mondes. Et puis j'ai réfléchi sur cette question puisque j'étais obligée de me la poser après coup, heureusement. Et je me suis dit, mais c'est très récent qu'on écrit dans sa langue maternelle. Pas quoi, 2 siècles. Alors que l'écriture humaine, elle est ancestrale, enfin, de tous les temps. Et je me suis dit, mais pourquoi n'est pas allé vers la liberté d'une langue, d'une musique qu'on s'est appropriée à l'âge conscient et non pas à l'âge de nos parents. Moi, je trouve très riche, au contraire, cette capacité de... Ça se trouve, le prochain roman va être en franglais, puisque maintenant, c'est une langue très intéressante. Et en russe, j'ai envie d'écrire en russe aussi. Mais c'est les personnages qui... Ou en bulgare. C'est les personnages qui appellent ça. Puis on ne vit plus dans cette époque de... Tout le monde parle au moins 2 langues. Donc, on est...
Donc les deux cœurs, c'était...
Donc les deux cœurs, c'est une question qui m'interpelle beaucoup parce que c'est très joli ce que vous dites. Mais ce n'est pas la langue, ce n'est pas les deux cultures. Les deux cœurs, est-ce que ce ne serait pas plutôt... je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais c'est très... C'est pas une question facile. Hein, de quoi est fait notre cœur et puis d'en en faire 2. Non.
Est-ce que l'écriture de ce roman vous a libéré, sachant que l'écriture d'un premier roman, c'est toujours quelque chose d'un peu particulier dans un parcours. Comment vous vous sentez voilà, aujourd'hui, le roman est paru, il est public.
Ce qui me libère avec la sortie du livre, c'est ce que je disais, c'est que le processus créatif, il ne s'arrête pas à l'imprimerie. Déjà, il a eu un processus créatif qui était ajouté par l'éditeur. Ce n'est pas par hasard dans quelle maison. De même façon que les personnages ont besoin de leur langue, ils ont besoin aussi de leur maison. Donc c'était déjà la 2e étape. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Galad, j'étais très soulagée, effectivement. Ensuite, il y a ce processus d'un livre créatif qui est le lecteur qui s'en empare. Ce ne sont plus du tout les mêmes mots. Et donc... Au contraire, je suis impatiente et curieuse de voir qu'est-ce qu'ils vont faire les autres avec ce livre. Comment ils vont le lire ou dans quel cœur ils vont le mettre ou pas. Enfin, non, je suis plutôt joyeuse plutôt que libérée. Enfin, là où je me sens libérée, c'est de pouvoir lever la voix. De lever la voix et de dire mais... Est-ce que quelqu'un nous a demandé vraiment quelle était la vie qu'on a vécue derrière le mur? En gros, j'ai eu assez que ce soit toujours BHL qui me raconte comment était mon enfance. Donc, il y avait un moment où il fallait peut-être prendre la parole. Et ça m'a soulagée d'oser prendre la parole.
J'ai lu quelque part que vous travailliez déjà sur un second roman.
Oh oui, ça, c'était une aventure, oui.
Donc, c'est un premier roman qui ouvre la voie vers d'autres.
À vrai dire, j'écris des romans depuis très longtemps.
D'accord.
Mais pour moi, le roman, celui qu'on va inviter les autres de le continuer, demande une certaine exigence de quelque chose. Je n'ai pas de règles, c'est très intime. Et celui-là avait son moment à sortir maintenant. Voilà.
Merci beaucoup,
en tout cas,
d'avoir pu répondre à toutes ces questions.